Nous attendions juste que Stéphane enclenche la cloche. Parce que nous avons la cloche et que comme ça, on ouvre notre inauguration par une évocation de ce qu'était ce lieu auparavant. Donc, chers amis, un grand merci d'être venus aujourd'hui, malgré la pandémie, malgré les inquiétudes qu'on a notamment avec cette fameuse variante Delta, mais enfin, on va tous quand même garder quelques distances pour éviter des contaminations qui seraient bien ennuyeuses. Mais on va quand même aller de l'avant. Et donc, le but de cette réunion, c'est de marquer l'inauguration de notre centre, encore que déjà depuis le 17 avril, il a été actif, notamment par une conférence sur Henri Dunant et la Russie, par un étudiant russe. Mais maintenant, on voulait faire quelque chose d'un petit peu plus formel. Alors, notre maître de cérémonie sera Stéphane, à qui je laisse la parole.
Bonjour à toutes et à tous, merci d'être venus. C'est ma première présentation, donc je demande votre indulgence. Vous avez ici une image qui date de 1812-1813, peut-être même un peu plus tard, 1913, on va dire. Mais elle a été coloriée pour remettre un petit peu l'ambiance du rêve de quelqu'un. Et ce rêve va se concrétiser. Elle a été construite par un architecte du nom de Fulpius sur l'emplacement d'une propriété qui appartenait à Franck du Perron. Et puis, je vous parlais du rêve de quelqu'un, donc voilà, avant les travaux, Roger montre un petit peu l'image du rêve, et tout le monde est là extrêmement attentif, et les travaux ont pu commencer relativement rapidement après. L'idée était de recréer un lien entre ce qui n'existait plus, et puis le divin, et surtout l'accomplissement de pouvoir garder un emplacement pour l'image et la mémoire d'Henri Dunant. Alors, à la suite d'une assemblée, Roger a réussi à convaincre non seulement tous les participants, mais également une fondation privée genevoise qui s'est montrée extrêmement généreuse. Et le 14 janvier 2020, nous avons une première très bonne nouvelle qui permet de démarrer des travaux. Le début des travaux, si nous revenons à deux images plus tôt, voilà, ici, vous voyez, donc ça c'est lorsque une partie qui n'existe plus a été remplacée par cette structure qui permet donc d'accueillir également de ce côté-là la cellule du visiteur, enfin, l'étudiant qui va venir travailler actuellement. Et puis, au premier étage, donc la mezzanine, qui permet d'accueillir également toutes les structures d'électricité, de chauffage, toutes les utilisations qui permettent à cet endroit d'être à la fois un lieu de vie et un centre pour recevoir, pour des conférences, des manifestations. Et pendant les travaux, la bonne humeur est toujours restée mise. Je dois quand même préciser que les travaux étaient extrêmement ralentis du fait de cette pandémie à cause de ce Covid, beaucoup d'entreprises ont dû malheureusement nous annoncer qu'elles ne pouvaient pas venir travailler. Le choix pour la peinture, pour la teinte des versets a été assez ardu parce qu'on a dû se baser sur des photographies qui étaient prises avant les travaux et puis reconstituer les couleurs. Et Michel Favre, le graphiste, a pu recréer tous les textes à l'identique en termes de couleurs, en termes de calligraphie. La taille est un petit peu plus réduite pour qu'on puisse les lire disons, plus facilement dans l'espace réaménagé. Là, vous avez la partie qui est de ce côté-là. Vous êtes en train de préparer le chablon sur lequel viendra se mettre la calligraphie définitive. Et puis, toutes les mesures de sécurité ont bien entendu toujours été prises de telle façon à ce que les ouvriers et tous ceux qui venaient travailler le fassent en totale sécurité dans le respect de la loi. C'est-à-dire qu'il y avait des constructions qui ont été mises provisoirement pour que tout se passe de façon la plus sûre, pour éviter qu'il y ait des chutes ou des accidents. Donc l'aménagement de la terrasse en bas sur laquelle nous nous retrouverons un peu plus tard, vous montrera qu'un grand travail a été fait également afin d'aménager cette surface qui était un petit peu abandonnée et tout, et qui est devenue donc, également un espace extrêmement convivial, notamment s'il y a des réunions qui se font en plein air grâce au beau temps. Ici, nous avons les deux artisans, Hermann Höxner et son fils, qui ont énormément œuvré pour tout ce qui est les fenêtres, des cadres de fenêtres, tout ce qui a été boiserie, tout ce qui a été permis des bancs sur lesquels vous êtes assis, tout a été entièrement rénové et refait par ces deux personnes qui ont vraiment fait un travail fantastique. Vous voyez ici donc la partie qui montre que M. Laurent Perrier, qui est venu installer ce système multimédia qui permet donc d'offrir des prestations extrêmement modernes. Donc, tout est centralisé et extrêmement simple et prend un minimum de place. L'éclairage a également été revu. Donc, vous avez cette voûte sur laquelle nous aurons encore 2-3 aménagements à faire, mais vous voyez que l'éclairage final donne vraiment une impression extrêmement agréable et puis surtout vous apportera une inspiration si vous souhaitez faire des réalisations ou des discours, des présentations. Enfin, la première manifestation, entre guillemets, on peut dire, a eu lieu il y a quelques semaines. C'était un exposé sur l'histoire et la relation entre Henri Dunant et la Russie impériale. Et c'est bien déroulé. Vous voyez que des travaux sont encore en cours. Si on regarde, il y a encore le matériel, tout n'est pas terminé. Les aménagements ne sont pas encore finis, mais déjà ça commençait à prendre vie. Et c'est la fin de cette présentation. Je vous remercie. Merci. Et je vous souhaite une bonne journée.
Alors maintenant, nous demandons à Cécile de bien vouloir prendre la parole. Cécile est donc une descendante du Nord, de même que Bernard et Monique. Que Pierre, donc nous avons des descendants en direct possible du Nord, de même que nous avons des dents, cette fois-ci aussi en ligne la plus directe possible de Louis Appia avec Bertrand Olivier Pictet, et puis nous avons une représentante de l'Ormolois, Claire Dussumer. Elle est dans le sang, c'est en ligne directe, et puis nous avons une représentante de la famille Moignier, Elisabeth, qui est une autre. Alors, je n'ai pas oublié des descendants et des apparentés, mais un maternel. Alors, notre seul manque, c'est les Dufour. Bon, pourtant, ils sont nombreux. Ah, pardon, monsieur Lenormand, mais excusez-moi. Bien entendu, nous avons aussi un descendant Dufour. C'est absolument fantastique. Alors, cette fois-ci, au complet.
Et à Pierre, comme.
Et aussi à Pierre. Alors maintenant, je donne la parole à Cécile pour la société Henri Dunant.
Alors voilà, donc mon nom c'est Cécile Dunant, je suis descendante par le frère d'Henri Dunant, Daniel, et la fille de Bernard et Monique Dunant. Donc mon nom est Cécile Dunant, et on m'a demandé en tant que vice-présidente de présenter la société Henri Dunant. Alors je crois que comme tout le monde le sait, le grand spécialiste, c'est bien Roger Durand pour parler de la société Henri Dunant. Mais voilà, je vais le faire, en espérant, je vais le faire assez succinct, n'est-ce pas? Et déjà, ben, merci d'être là, vraiment merci à chacun d'être là, voilà, pour toutes les représentations diverses. Et donc voilà, la société Henri Dunant, en fait, elle a été créée le but principal, c'était de faire connaître et publier les documents et les écrits par Henri Dunant. Elle a été créée en 1975 par Roger Durand, le président, historien et je crois le principal connaisseur de la vie et des œuvres d'Henri Dunant dans le monde entier. À mon avis, c'est le plus grand spécialiste qu'on peut trouver aujourd'hui de la vie d'Henri Dunant. Elle est constituée en fait d'un comité qui a évolué au fur et à mesure des années, on va dire. Il y a évidemment des gens qui sont partis. Un des premiers membres du comité était mon grand-père, Paul Dunant, qui a eu la continuité ensuite par mon père, Bernard Dunant, et une de mes tantes, Claire Dunant, qui ont fait aussi partie du comité un peu plus tard. Maintenant, c'est moi. Voilà. C'est la suite. Ouais. Alors, on compte, si je ne me trompe pas, en tant que membre et ami, il y a environ 400 personnes. Et on a le privilège aussi d'avoir des membres correspondants, donc qui nous permettent d'avoir une représentation à l'international qui est très intéressante. À part ça, en fait, on va dire que cette société Henri Dunant rassemble des personnes qui sont intéressées par la vie, l'action et la pensée d'Henri Dunant. Alors, la Société Henri Dunant promeut tout ce qui est œuvre d'Henri Dunant. Elle se consacre à publier ses écrits. Elle établit des contacts aussi avec des institutions et des personnes qui ont les mêmes intérêts, on va dire. Et elle organise aussi des colloques historiques. On pose des plaques commémoratives ou aussi des bustes dans certains endroits spécifiques. On commémore aussi des événements notoires en collaboration avec d'autres institutions qui ont les mêmes intérêts. On organise aussi des voyages d'études sur les traces d'Henri Dunant. Alors, on peut dire aussi qu'on entretient des relations privilégiées avec les institutions concernées par Henri Dunant, donc comme la Croix-Rouge, le Musée international de la Croix-Rouge, le Dunant Museum à Leiden, la bibliothèque, etc. Donc, il y a plusieurs relations qu'on entretient privilégiées. Et puis, par exemple, pour le 100e anniversaire de l'attribution du premier prix Nobel de la paix, la Société Henri Dunant avait créé un itinéraire pour la paix dans les rues de Genève avec plusieurs activités qui étaient proposées, qui a eu beaucoup de succès d'ailleurs. Et puis, la Société Henri Dunant a également créé des médailles pour certains anniversaires. Il y a eu par exemple le 150e, c'était en 1978, pour le 150e anniversaire de la naissance d'Henri Dunant. Ensuite, en 85, pour le 75e anniversaire de la mort d'Henri Dunant. Et ensuite, en 88, pour le 125e anniversaire de la Croix-Rouge. Donc ça, c'est aussi des médailles qui ont été faites. À part ça, la Société Henri Dunant publie régulièrement un bulletin de ses activités et de ses publications, autant en faire la présentation. Et puis, effectivement, je pense que vous le savez tous, elle a publié énormément de publications. La liste est longue, donc pour ça, vous pouvez poser des questions à son président, parce que vraiment, il y a eu beaucoup de publications qui sont très intéressantes. Si vous n'en avez pas, n'hésitez pas à lui demander. Et puis, on a eu en 2010 la commémoration du 100e anniversaire de la mort d'Henri Dunant, et que nous avons célébré aussi avec la commémoration du 100e anniversaire de la mort de Gustave Moynier. Les deux personnages sont décédés la même année. Et puis, ça a donné l'occasion d'écrire deux biographies sur ces hommes. Donc, une qui a été écrite sur Henri Dunant par Roger Durand, et l'autre biographie qui a été écrite sur Gustave Moynier par François Mignon. Et ce sont des biographies ensuite qui ont été traduites dans plusieurs langues et qui ont finalement permis d'avoir des événements de lancement et de voyages d'études dans différents pays pour ces lancements de biographies. Là aussi, je vous encourage à recevoir ces deux biographies parce qu'elles sont très intéressantes. Et puis sinon, comme voyage d'études, il y a eu plusieurs fois des voyages organisés, tout d'abord à Solferino et à Castiglione, bien sûr, sur les traces de la bataille, sur les traces d'Henri Dunant, qui étaient des voyages extraordinaires. Alors, moi, je ne les ai pas tous faits, évidemment, je suis trop jeune, mais je veux dire, il y a eu des voyages avant que je sois, maintenant je ne fais plus rien. Et puis, ensuite, il y a eu aussi plusieurs voyages au Dunant Museum à Leiden. Il y a eu aussi des voyages en Algérie qui ont été organisés. Et en Tunisie également, il y a eu des voyages aussi organisés. Il y en a eu un à Strasbourg pour découvrir le pyrophone, le fameux pyrophone. Et ensuite, on a eu plusieurs événements aussi à Culos, surtout une fois en 93, si je ne me trompe pas, pour célébrer la commémoration de la demande de naturalisation française d'Henri Dunant. Donc, c'était à Culos. Et puis également à Sommières, dans le Gard. Enfin, etc. Il y a eu plusieurs voyages d'études, il y en aura encore, toujours organisés un peu sur les traces. Partout, l'infatigable Henri Dunant a passé par là. Et puis sinon, la Société Henri Dunant, maintenant, s'est étendue au cours des années. Elle a étendu son activité, ses recherches sur les quatre autres fondateurs de la Croix-Rouge. Et voilà ce qui nous permet de passer la parole pour la suite.
Est-ce que je peux demander à Olivier Pittet de nous parler de la société Louis Appien?
Alors, bonjour. Alors, dans les quelques minutes qui me sont accordées, je vais brièvement vous présenter la société Louis Appien, qui est moins connue que la société Henri Louis. Il y a quelques années, avec Roger Durand, Roger Durand fait la connaissance de Louis Appia junior, arrière-petit-neveu du docteur Louis Appia. Très vite, l'idée de préparer une commémoration sur le bicentenaire de la naissance du docteur Louis Appia, cofondateur de la Croix-Rouge, a été lancée. Roger Durand et plusieurs membres de la famille Appia, de Genève et de Paris, ont formé un solide groupe de travail. En mars 2017, la société Louis Appia a été créée pour préparer cette commémoration et lancer une recherche sur la vie et l'œuvre de Louis Appia. Au départ, son comité était composé de Roger Durand, Valérie Appia, Louis Appia, Bertrand Picter, Valérie Lathion, Laurence Appia et moi-même. Tous les membres de ce comité se sont beaucoup impliqués et je tiens à remercier tout particulièrement Roger Durand pour son engagement infatigable dans la préparation et la réalisation de toutes nos activités. Un très grand merci à Valérie Lathion pour la préparation et la publication des abstracts, bulletins, catalogues, etc. Je tiens aussi à mentionner la participation des membres de la famille Appia qui se trouvent à Paris pour leur aide et leur soutien. Je pense tout particulièrement à Valérie Appia et son mari David pour leur recherche du document historique ainsi qu'à leur fille Sarah Appia qui a réalisé le design des panneaux d'exposition. Ce matin, nous avons le plaisir d'avoir avec nous Rainer Schlosser, qui nous aide à publier les abstracts de notre premier colloque, et je tiens à le remercier d'avoir fait aujourd'hui le déplacement depuis l'Allemagne. Les activités de notre société ont été nombreuses ces dernières années. Notre tâche a été de trouver des documents sur Louis Appia. Une incroyable découverte a été de trouver le pot au CICR, un coffre contenant non seulement des lettres, mais aussi un grand nombre de documents inédits sur Louis Appia. Par la suite, d'autres documents ont été retrouvés dans les archives à Paris et dans les vallées vaudoises du Thiers. Alors, nous pouvions commencer à travailler. À l'automne 2018, nous avons donc préparé trois grandes commémorations pour le bicentenaire de la naissance de Louis Appia. La première et la plus importante a eu lieu à Genève en octobre. Elle a permis de réaliser un colloque scientifique au musée du CICR, la pose d'une plaque commémorative, une exposition à la Fédération internationale de la Croix-Rouge et une belle réunion familiale. Deuxième commémoration a eu lieu à Hanau, lieu de naissance de Louis Appia. Elle a été l'occasion de dédicacer le siège de la Croix-Rouge allemande de Hanau au nom de Louis Appia. La troisième commémoration eut lieu en novembre à Paris, au nouveau siège de la Croix-Rouge française. L'année suivante, en 2019, nous avons eu une commémoration à Torre Pellice dans les vallées vaudoises du Piémont, qui sont le lieu d'origine de la famille Appia. Un colloque historique a eu lieu autour de Louis Appia et sa mère. Lors de ces commémorations, nous avons organisé plusieurs expositions. Elles étaient composées d'une vingtaine de panneaux sur la vie et l'œuvre de Louis Appia. Le premier panneau est visible à droite, ici, de cette diapositive, sur laquelle on voit le dessin qu'a réalisé Louis Appia à Solferino en juillet 1950. La première exposition a été inaugurée en octobre 2018 à Genève, dans l'entrée du nouveau siège de la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge. Et elle y est restée pendant plusieurs mois. Une deuxième exposition en allemand a été installée à Hanau en 2018. Et en novembre de la même année, une troisième exposition a été présentée à Paris dans le nouveau siège de la Croix-Rouge française. Finalement, une exposition en italien a été présentée dans le centre culturel vaudois à Torre Pellice lors de la conférence de 2019. Et pour ceux qui n'ont pas encore eu le plaisir de la voir, la version française de l'exposition sera présentée prochainement à la chapelle de l'Oratoire, probablement en décembre de cette année. Comme vous le voyez sur cette diapositive, notre société a aussi organisé plusieurs voyages pour préparer les commémorations du bicentenaire. Nous sommes allés à Hanau, et Louis Appia, mais aussi en Italie, où il a soigné les blessés près des champs de bataille. Nous avons organisé en collaboration avec la société Henri Dunant deux voyages d'études en Lombardie et en Trentino sur les traces d'Henri Dunant et de Louis Appia en 2018 et 2019. Et naturellement, les vallées vaudoises du Piémont, qui est le lieu d'origine de la famille Appia, n'ont pas été oubliées. Je tiens à remercier ici chaleureusement deux personnes pour leur aide dans la préparation de ces voyages. Je pense à Maria Grazia Bartolo pour la Lombardie et Trentino, et aussi à Gabriela Bellesio pour les vallées vaudoises. Vous connaissez bien Roger Durand, alors vous ne serez pas étonné de savoir que notre société a travaillé à la pose de nombreuses plaques commémoratives. J'en voyais quelques-unes sur cette diapositive. La première a été posée à Genève, derrière Saint-Pierre, d'où fut lancé l'appel de Louis Appiat le 13 mai 1850. Bien sûr, d'autres plaques ont été posées en Italie, sur les lieux où Louis Appiat a été en 1859 pour soigner les blessés de la guerre d'Italie, à Solferino et à Leonardo del Garda, mais aussi sur les lieux où il est allé en 1866 pour soigner les blessés de la guerre contre l'Italie et l'Autriche, à Storo et à la Belgique.
Elles ne sont pas toutes la même.
Des réunions familiales ont été organisées lors des commémorations du bicentenaire. La photo que vous voyez ici a été prise lors d'une réunion à Collonges-sous-Salève, chez les Bouteilliers de Bonbon. Mais d'autres réunions ont eu lieu à Genève et à Paris, chez les Indiens. Alors pour terminer, je vous rappelle qu'il y a un site internet qui est à votre disposition pour obtenir des informations plus précises sur les différentes activités passées et à venir, et donne aussi bien des informations historiques sur les activités de Louis Appiat ainsi que sur sa famille. Merci de votre attention.
Est-ce que je peux demander maintenant à Clarisse Schiller de nous parler de la société Théodore Monnoir?
Arrière-grand-père. Théodore Monnoir, 1806, 1069. Il est décrit comme un homme extrêmement intelligent, de grande qualité, charmant, avec un profond sens de l'humour. Il a fait ses études à Londres, à Paris et à Lyon. Son cabinet de médecin et chirurgien était installé au 6 rue du Soleil Levant, tout près de la cathédrale. Un comité a été créé à Paris le 13 mars 2019 et ce comité s'est mué en Société Théodore Monnoir le 19 juin dernier, ici même. Le but de cette société est de mieux faire connaître ce médecin humanitaire et de promouvoir son œuvre. Quelques événements. Un colloque le 26 avril 2019, participation à la journée Croix-Rouge du 8 mai 2019 au Bastion, une journée sur les traces de Théodore Monnoir de Mornay à la Maison Bonne sur le Salève le 7 août 2019, puis une participation journée de la Croix-Rouge à Alfortville, Val-de-Marne, 4 novembre 2019. Puis tout récemment, un voyage d'études au Salève, le 11 août dernier, de Mornay à Grange-Passet, à Grange-Gaby, pour atterrir à la Maison Bonne. Quelques publications. Les actes du 26 avril 2019 sont des traces de Théodore Monnoir par René Platon. Article sur Théodore Monnoir, membre du Conseil de santé, dans le numéro 30 du bulletin de la Société Henri Dunant. Autre article sur le livre de compte d'un médecin philanthrope, également dans le bulletin de la Société Henri Dunant, numéro 31. Puis Théodore Monnoir du Mont Gosse à l'hôpital Bourgas. Monnoir au Salève. L'idylle de Théodore Monnoir et l'Herminie d'Arabara par Laurence Winthrop. Quant à nos projets, publication des actes du colloque du 26 avril 2019, pose d'une plaque commémorative au 6 rue du Soleil Levant, une autre plaque à l'emplacement de l'hôpital Bourgas, une journée dans la vieille ville, sur ses traces et celles de la Croix-Rouge. communication sur ses liens avec le monde anglo-saxon, l'autre communication sur la fondation Bourgas. Au niveau communication, vous avez un flyer qui vous sera mis à disposition tout à l'heure, un quartier mono, peut-être vous l'avez aperçu quelque part ici autour, un site web, theodore-monoir.ch. Allez guigner, c'est magnifique. Nos recherches, un journal de John Bizot. John Bizot était un ami de Théodore. Le château de Boringe et Théodore à Mornay.
Et maintenant, j'ai le plaisir de donner la parole à Valérie Lathion, qui va nous présenter la Fondation Gustave Adore, dont elle est trésorière, et puis une association culturelle qui s'appelle Histoire en Lumière, dont elle est une des fondatrices. Merci Valérie.
Merci Roger. Bonjour à tous. Tout à l'heure, Roger a parlé des descendants. Donc, je salue la présence de Frédéric Hensler, qui est membre du conseil de la Fondation Gustave Adore et descendant direct de Gustave Adore. Je dois avouer que je crois que c'est l'arrière-petit-fils. C'est juste, ou arrière-petit-fils, voilà, arrière-arrière-petit-fils. À partir du moment où on a tendance un peu à se perdre. Alors, créée en 1996, la Fondation Gustave Adore est l'héritière d'un comité fondé 3 ans auparavant, notamment dans le but d'organiser les commémorations liées aux 150 ans de la naissance de Gustave Adore. Gustave Adore étant né en 1845. Le principal but de la Fondation est de contribuer à la connaissance de la vie et de l'œuvre de Gustave Adore, autant en sauvegardant ses archives et celles qui le concernent, qu'en organisant des commémorations, des colloques scientifiques, des conférences, et également en publiant des ouvrages. Même si le nom de Gustave Adore n'est assurément pas inconnu aux Genevois, il peut être utile de retracer en quelques phrases sa vie foisonnante pour dépasser les simples titres de président de la Confédération, sauveteur de l'unité suisse, ou de président du CICR. Fils et petit-fils de banquier, Gustave Adore, né en 1845, grandit à Genève dans une famille de la haute bourgeoisie protestante. Devenu avocat, il mène une brillante carrière politique. Il a affronté avec succès tous les scrutins électoraux, législatifs et exécutifs existants au niveau municipal, à colonie, cantonale et fédérale. Orateur hors pair, il défend les idées libérales durant une quarantaine d'années à la tribune du Grand Conseil Genevois et à celle du Conseil National à Berne pendant presque 30 ans. Administrateur rigoureux, il redresse les finances genevoises lorsqu'il est à la tête du département des finances, rétablit la paix confessionnelle pour sortir son canton du Kulturkampf et étend les droits populaires. Élu conseiller fédéral en 1917 en pleine crise politique, il est l'homme providentiel qui rétablit l'unité de la Suisse, fissurée par une divergence d'appréhension de la Première Guerre mondiale entre romans et alémaniques. Suivant une intense activité diplomatique, il défend sans relâche la neutralité de la Suisse et rétablit l'image de son pays à l'étranger. Il met surtout en place une nouvelle politique étrangère, donc en tant que président de la Confédération, donc une nouvelle politique étrangère qui rend la Suisse active dans la construction de la paix par son adhésion à la nouvelle Société des Nations. Après son retrait du Conseil fédéral, il poursuit sa tâche à la SDN en y étant délégué et membre très actif de sa commission économique et financière, persuadé que la construction de la paix repose sur la résolution des problèmes financiers et économiques. Cette brillante carrière politique et surtout son aspect diplomatique est sous son doute lié à la longue expérience de l'activité diplomatique que Gustave Adore a menée dans le domaine humanitaire à la tête du CICR et en particulier durant les années de guerre.
Ayant intégré le jeune comité international de la Croix-Rouge à 25 ans, il s'y consacre pendant près de 60 ans jusqu'aux derniers instants de son existence. Dès le début de la guerre, en 1914, il fonde l'Agence internationale des prisonniers de guerre pour laquelle le CICR reçoit le prix Nobel en 1917 et multiplie ses déplacements en Europe pour visiter des camps, négocier avec les autres organisations humanitaires et les chefs d'État. Vous l'avez aisément compris. Face à un parcours si foisonnant, la Fondation du Sable alors a de quoi faire. Mais je ne vous ai pas évoqué d'autres aspects de son existence. Avocat et homme d'affaires, siégeant dans de multiples conseils d'administration dans des domaines très variés. Lieutenant-colonel, père de famille veillant sur ses 5 filles et son fils, grand-père, fidèle épistolier, homme de foi. Depuis bientôt 30 ans, la Fondation du Salvador a organisé de nombreuses commémorations, colloques scientifiques, conférences. Elle a érigé des bustes, posé des plaques commémoratives, frappé une médaille. Elle a publié de nombreux ouvrages et brochures. Je ne vais pas tous vous les citer, ce serait trop long. Vous avez d'ailleurs un dépliant qui en présente quelques-unes. Je vais vous parler de son fonctionnement actuel et de ses activités les plus récentes et de ses projets. Géré par un conseil de fondation qui réunit autant des descendants de Gustave Adolphe que des historiens, la fondation a mis en place un cercle des historiens qui propose au conseil l'orientation scientifique des recherches historiques et des publications. Ces 5 dernières années, la fondation Gustave Adolphe a connu quelques riches heures, notamment avec l'organisation d'un colloque scientifique commémorant le centenaire du prix Nobel de la paix attribué au CICR en 1917, en particulier pour le travail accompli sous la houlette d'Adolphe par l'Agence internationale des prisonniers de guerre. Sur le thème « Action humanitaire et quête de la paix », ce colloque, dont les actes ont été publiés en 2019 dans une coédition Fondation du Salvador, édition Georg, a cherché à comprendre les circonstances et les raisons qui ont mené à l'attribution de ce prix, à dépasser les interprétations hâtives, voyant les humanitaires comme des pacifistes ou accusant les humanitaires de prolonger la guerre. Ce thème a permis d'examiner les représentations de la paix, voire de sa quête, par les acteurs humanitaires, également hors Croix-Rouge, et plus largement par les acteurs sociaux en Suisse comme à l'étranger, et d'analyser le regard des milieux pacifistes sur l'action humanitaire. Le vernissage de ce livre en 2019 a été l'occasion de débuter la série des rendez-vous de Gustave Adolphe, qui sont des rencontres afin de dialoguer entre le passé et le présent en créant des passerelles sur des thématiques qui ont été au cœur de l'engagement de Gustave Adolphe et que l'on rencontre aussi aujourd'hui. Le rendez-vous de 2020 a malheureusement dû être annulé pour cause de pandémie. Mais d'autres rendez-vous de Gustave Adolphe auront lieu, nous l'espérons tous. Actuellement, 2 axes de recherche historique sont soutenus par la Fondation. L'un vise à approfondir les connaissances sur l'activité de Gustave Adolphe au sein de la Société des Nations et plus précisément son rôle dans la mise en place d'un dispositif de régulation économique sur la base de sa conviction, qui est également partagée par d'autres, qu'une paix durable ne pourra pas être construite sans une reconstruction économique et financière de l'Europe. Président de la Conférence financière internationale de Bruxelles de 1920, il jette les bases d'une collaboration internationale en ce domaine. Cette recherche est menée par Françoise Dubosson. L'autre axe de recherche qui m'a été confié est l'étude et la valorisation d'un recueil de manuscrits de Gustave Adolphe retrouvés dans les archives familiales. Constitué de notes de travail, de correspondances, de brouillons, de discours, vous voyez, ici, de discours in extenso, certains ayant été publiés, d'autres inédits, il couvre la période entre 1880 et 1928 avec une prépondérance de documents traitant de l'activité politique de Gustave Adolphe entre 1916 et 1919. L'année prochaine, en florilège de discours commenté paraîtra, certains provenant justement de ce recueil, et d'autres textes provenant d'autres sources publiques et privées. Il mettra en avant le don oratoire et les multiples engagements de Gustave Adolphe. Enfin, la Fondation Gustave Adolphe a collaboré et soutenu le défi Courir pour l'humanité conçu par l'association Histoire en Lumière, dont je vais vous parler dans un instant. Ce défi a été inauguré ici même, le 12 juin de cette année. Je vous le présenterai tout à l'heure. Pour terminer, voici un extrait du recueil dont je viens de vous parler, extrait que vous pouvez aussi retrouver sur le dépliant de la Fondation. Une paix bâtie sur la justice et la vraie solidarité, tel est le vœu de mon cœur pour notre pauvre humanité. Je remercie. Je passe à la tribune. Voilà. Et maintenant, je vais vous parler de l'association Histoire en Lumière, qui est une association culturelle qui a été fondée en 2009 dans le but de promouvoir l'histoire par une approche pédagogique et divertissante. Elle promeut deux principes de base. L'histoire, dans toute sa complexité provenant des recherches scientifiques pointues, peut être accessible à tous et doit servir à se forger une connaissance qui nous permet de mieux appréhender le présent, héritage de multiples passés. À l'origine, deux historiens, qui sont aussi à l'origine musiciens, mon mari David, historien et chanteur spécialisé dans le grégorien, qui en plus s'est mis au luth il y a quelques années, et moi-même, qui, je pense que peu d'entre vous le savent, je suis également harpiste. Ainsi qu'en ingénieur du son, Alexandre Effet, qui a aussi derrière lui de nombreuses années de chant choral. Vous verrez peut-être pourquoi c'est important le chant et la harpe ensuite. Au gré des projets, nous nous éloignons d'autres ingénieurs du son et de l'image, des caméramans et monteurs, d'autres artistes, en particulier des comédiennes et des comédiens, et bientôt des danseurs. Histoire en Lumière a déjà produit des projets variés, comme Je vous écris des Alpes, qui regroupait en spectacle nocturne extérieur, intitulé Le dernier pèlerinage, des podcasts accompagnant une randonnée, un court-métrage diffusé dans une chapelle alpine sur le thème de la vie des femmes dans les Alpes au début du XXe siècle. Également des reconstitutions historiques sonores par le biais d'audioguides, que ce soit dans la vieille ville de Genève, replongeant les participants à l'époque de la création de la Croix-Rouge, ou dans un village français transposant les participants à l'époque de la guerre de 14-18. Actuellement, Histoire en Lumière propose un concept inédit de défis pour petits et grands sur des thématiques variées, mêlant enquête et réflexion. Je laisse l'image vous expliquer ce type de défi, puis je vous parlerai plus précisément de quelques-uns d'entre eux. On attend. Pour les enfants, et en particulier les groupes scolaires de primaire, nous proposons le secret du charpentier. Cette activité se déroule dans une forêt et permet de découvrir le Moyen-Âge, sous l'angle de la musique justement, des mathématiques et de l'architecture. Pour les familles, mais aussi les adultes, qu'ils soient individuellement en groupe, nous proposons la malédiction du cervin, en défi mêlant enquête historique et randonnée, accessible aux non-alpinistes, pour bien le préciser, malgré les images de tout à l'heure, à Zermatt, sur le thème de la première ascension du Cervin en 1865 et des polémiques qui résultèrent du drame qui s'y produisit, puisqu'à la descente, quatre hommes périrent et seul Édouard Mumper et deux guides zermattois revinrent vivants. D'ailleurs, dans le clip, vous avez vu les deux descendantes d'Andélide, Tom Valder, qui sont nos amis. Pour les groupes scolaires, à partir de 16 ans, les adultes, en groupe ou en individuel, nous proposons Courir pour l'humanité, un défi historique et sportif sur le thème de l'urgence humanitaire durant l'été 1921, et centré justement sur l'action menée par Gustave Adler dans le cadre de la SDN et du CICR, afin de procéder au sauvetage humanitaire de réfugiés provenant de Russie. En effet, alors que des centaines de milliers de réfugiés russes sont sur les routes, victimes des conséquences de la révolution bolchevique, des conséquences de la Première Guerre mondiale et surtout de la guerre civile, une terrible famine s'abat sur la Russie au printemps 1921, accroissant l'urgence humanitaire. Autour de Gustav Adler agissent à Genève des hommes et des femmes d'horizons multiples, tels que Fridtjof Nansen, Marguerite Frick-Kramer, Sir Eric Drummond, Eglantyne Jebb, Albert Thomas, Jim Adams, pour citer que les plus célèbres. Cette activité, qui a bénéficié bénéficié de plusieurs aides généreuses, dont celle de la Fondation Gustave Adolphe, a été inauguré le 12 juin dans cette année, justement dans notre beau centre Henri Dunant. En présence de nombreuses personnalités, dont la conseillère vitale Nathalie Fontanet, et des représentants de plusieurs organisations humanitaires qui ont joué un rôle en 1921 dans le cadre du sauvetage des réfugiés russes et qui sont toujours présents aujourd'hui. La Croix-Rouge genevoise, la Fédération internationale des sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, le Haut Commissariat aux réfugiés, Save the Children. Ce défi permet aux participants d'endosser le rôle de responsable d'organisation humanitaire, contraint d'arpenter Genève en tous sens et de mener des missions qu'ils reçoivent par le biais de leur smartphone. Ces missions les contraignent à courir, par exemple, d'hôtel en ambassade, de siège de banque en bureau de comité, pour négocier des accords, rechercher des fonds, convaincre des diplomates. Tout ceci en utilisant les informations reçues par podcast et trouvées dans nos bases de données informatives. Défis sportifs, en marchant, en courant, à vélo ou en trottinette, plongés dans le passé, cette activité est également l'occasion d'exercer son sens de la diplomatie et de la planification, puisque toutes les équipes ne sont pas en concurrence, mais au contraire doivent collaborer afin de trouver, dans le temps imparti, les solutions à l'urgence humanitaire. J'ai salué tout à l'heure la présence de Frédéric Amster, je dois de nouveau le resaluer parce que il y avait aussi François Dubesson, deux membres de la Fondation Gustave Adolphe ont eu le courage d'emprunter leur vélo et le 12 juin en pleine canicule de faire ce défi. Donc si vous avez des questions, allez les poser à Frédéric et surtout, voilà, parce qu'il faisait très très chaud ce jour-là. D'autres activités d'histoire lumière attendent des jours meilleurs, hors pandémie, comme le Royaume perdu, quand on a donné ses musique musicales à travers la Bourgogne médiévale en l'an 1226, ou encore le Riviera Showtrain, une comédie musicale itinérante à la découverte du foisonnement artistique et intellectuel entre Montreux et Gstaad. Je vous engage à visiter notre site internet. Toutes nos activités sont disponibles sur simple réservation aux horaires qui conviennent aux participants, évidemment, et vous avez des flyers à l'entrée. Merci. Un petit remerciement à faire à mon fils Aignan, parce que moi j'aurais été incapable de passer du diaporama au clip, ça n'aurait pas été possible pour moi.
Le centre Henri Dunant s'est donné pour principale vocation de réunir des associations, des fondations qui travaillent sur l'histoire du mouvement humanitaire, de la vocation humanitaire de Genève. Et nous avons été amenés par un cruel concours de circonstances à intégrer dans notre centre une nouvelle association qui s'appelle Nina la licorne volante et qui est due à un terrible accident, c'est-à-dire que la petite fille d'Ariane Vogel, membre du comité de la société Henri Dunant depuis 25 ans, Nina, 6 ans, qui est surtout la fille de Alexandre Murner, ici présent, et de Sophie de Claparède. Et Alexandre est devenu un ami pour nous depuis que, au printemps dernier, il est venu ici pour peaufiner les travaux du centre. Parce que vous savez qu'une fois que tous les corps de métier sont partis, il y a un tas de petits détails ou de choses importantes à régler. Et il y avait aussi le clocher que nous n'avions pas touché. Et Alexandre nous a beaucoup aidé pour ces finitions. Et en même temps, nous avons ainsi découvert un ami, véritablement une expérience de vie très, très enrichissante, avec aussi Stéphane, puisque Stéphane était le chef des travaux pendant cette année entière. Et voilà que la petite Nina, 6 ans, qui a un frère Arthur, 10 ans, et une sœur Morgane, 16 ou 17 ans, a été victime d'un horrible accident au début du mois de juillet. Elle était écrasée par une roulotte tirée par un cheval lors du début d'une semaine qui devait être merveilleuse dans la région de Toulouse et qui a été interrompue de façon vraiment épouvantable. Nous avons vécu ce deuil et nous avons vu que il ne fallait pas laisser les choses en l'état. Parce que, effectivement, cette mort est due à des insuffisances de prudence basique dans des camps de jeunes. Et alors, nous avons constitué une association, Nina, là, du camp de Londres, et qui a pour but d'essayer de prévenir ces causalités d'accidents complètement stupides. Et alors, donc, nous nous lançons dans cette activité-là aussi. Et il y a un site internet, c'est Nina LNV, c'est juste.
C'est ça.
Et donc, il est aussi possible, si cela vous dit, vous intéresse, de le consulter et de voir si vous pouvez apporter votre aide ou nous signaler des situations où une intervention peut très vite avoir de très heureuses conséquences. Parce que, par exemple, il n'y avait pas de règle qui interdisait aux enfants de monter ou de descendre de cette roulotte lorsqu'ils voulaient. C'est des choses tellement aberrantes, et ça a eu lieu en France, dans un camp organisé. Et donc là, nous pensons que c'est un engagement qui vaut la peine. Alors nous sommes plutôt dans l'humanitaire que dans l'histoire humanitaire, mais ça vaut la peine que c'est lâché. Alors je tenais à le dire, et nous avons ici, et Sophie et Alexandre qui sont présents, nous avons eu mercredi une cérémonie ici même, très émouvante. Il y a que vous voyez des bouquets de fleurs, parce que donc, vous me connaissez, c'est pas moi qui ai acheté des fleurs pour aujourd'hui. Voilà, donc je voulais vous juste évoquer cette nouvelle venue parmi nous au Centre Henri Dunant, mais bien entendu que si d'autres associations souhaitent choisir ce lieu comme siège, elles sont les bienvenues. Alors, c'est à peu près 11h maintenant, nous avons tenu juste les délais, on avait pensé une heure pour la présentation des associations, et puis maintenant nous allons avoir, moins d'une heure, deux communications. La première par le professeur Rainer Schlosser, qui est un ami de longue date maintenant. Il était professeur de romanistique à l'université de Jena, et maintenant il est atteint par ce qu'on appelle l'âge de la retraite. Mon Dieu, c'est des bons moments quand on est en bonne santé. Depuis très longtemps, Rainer est militant pour la Croix-Rouge. Il a fondé un musée Croix-Rouge à Luckenwalde, un magnifique musée où il a réussi à réunir des pièces qu'on n'a même pas nous à Genève, pour dire à quel point il est dynamique. Il est aussi le président de l'association des musées Croix-Rouge en Allemagne, je crois qu'il y en a même 12 ou 13. Et en même temps, c'est un partenaire scientifique pour nous, parce qu'il nous a beaucoup aidé pour toutes nos recherches sur Louis Appiah en Allemagne. Et il est en même temps d'une immense disponibilité et générosité pour traduire des textes du français vers la langue allemande. Et chaque fois, il ne veut pas recevoir un sou, il nous fait ça à toute vitesse, c'est de parfaite qualité, et je dois vous avouer que c'est aussi une collaboration extrêmement appréciée. Et donc, parmi toutes les cordes qu'il a à son arc, l'une d'entre elles, c'est maintenant Louis Appiah en Allemagne, et donc je lui laisse la parole.
Merci. Mesdames, messieurs, tout d'abord, j'aimerais remercier Roger Durand de m'avoir invité, de vous adresser la parole à un événement, une cérémonie aussi éminente. Et c'est Roger qui m'a proposé le sujet de publication de Louis Appiah en Allemagne. Je l'avais averti que ce sera une conférence assez courte, parce que le nombre de ces publications est assez restreint. Mais il m'a rassuré et il m'a dit que ce seront les conférences courtes qui sont estimées par l'auditoire. Et donc, j'espère que ce sera fait. J'ai dit les publications traditionnelles, c'est-à-dire les traditions imprimées, sont peu nombreuses. Donc j'ai élargi un peu la notion de publication et je vous présente les publications non seulement imprimées, mais aussi les publications immatérielles, les publications en métal, etc. Donc je vous présente un survol sur les traces que Louis Pia a laissées en Allemagne. Roger l'a dit, je dirige le musée de la Croix-Rouge à Kumwald. Personne, non, vous tous direz, le Kumwald, c'est où? C'est à 50 km au sud de Berlin. Mais vous connaissez tous Luckenwalde, je le mentionne, Luckenwalde est la ville où fut inventée à la fin du 19e siècle l'assiette en carton. Je commence par l'enfance de Louis Appia à Hanau et à Francfort. C'est une enfance particulièrement à Hanau. Très courte parce que ce n'était que 2 ans qu'il a passé à Hanau depuis qu'il a déménagé avec sa famille à Francfort. Louis Appia lui-même nous présente en quelques mots cette enfance. C'est le CD qu'il a réalisé à l'université.
C'est Paul Louis Appia.
Je l'ai vu hier, c'était trop tard pour lui. Donc, c'est le début de, de son CV. Il dit qu'il a attendu des cours à l'école de Francfort, l'Institut Mannum, et après au collège public à Francfort. Ce collège public à Francfort, il existe toujours. À l'époque de Louis Appia, c'était le seul collège qui existait à Francfort. Aujourd'hui, c'est le Lessing Gymnasium. Il porte le nom de Lessing à partir des années 50 du siècle passé. À l'époque de Louis Appia, le collège de Francfort, le Collegium Francofortanum, fut le seul collège à Francfort. Et c'était seulement depuis une trentaine d'années qu'il fut ouvert aux étudiants non luthérien. C'est donc en 1812 il fut ouvert aussi pour les autres confessions. Le collège lui-même fut fondé en 1520, donc l'année passée, et il a fêté son 5e centenaire. Il a publié un volume de mélange, encore parce qu'il est déjà épuisé. Mais j'ai une ancienne collaboratrice à l'université de Vienne qui habite à Francfort. Elle a une petite fille qui est écolière à ce collège et elle connaît ces mélanges et elle m'a dit que parmi la liste des écolières prominentes, il n'y a rien ne figure pas. Et nous nous sommes tombés d'accord que quand la publication sur Louis Appia des actes déjà mentionnés sera publiée, on fait une démarche au collège pour que Louis Appia soit intégré dans cette. Après, au collège à Francfort, Louis Appia a changé à Genève, il a fait son baccalauréat ici à Genève. Il a changé à Bonn pour commencer ses études en médecine. À gauche, vous voyez Bonn à l'époque de Louis Appia. C'était une université assez nouvelle. Le bâtiment, c'est l'ancien palais de l'archevêque de Cologne, qui en même temps fut ancien recteur de l'Empire allemand. Et à droite, vous voyez la salle des actes de l'université de Heidelberg. L'université la plus éminente de l'époque et Louis Appia a visité les plus éminents médecins de son temps qui enseignaient à Heidelberg. Cette salle exacte est probablement l'endroit où il a obtenu son diplôme de doctorat. Pour savoir un peu sur l'esprit allemand de Louis Appia, c'est très difficile parce qu'il y a peu de témoignages, ni de lui-même, ni d'autres personnes. Je pense qu'il y a des lettres privées conservées ou dans la famille, écrites en allemand, mais on ne les connaît pas. Des lettres en allemand sur sa période de vie en Allemagne, et là, on ne les connaît pas. et des témoignages de ses contemporains sur en Allemagne, ça n'existe pas ou on ne le connaît pas. La seule lettre en allemand que je connaisse, c'est une lettre qu'il a envoyée à la Weltraumische Gesellschaft à Hanau. C'est une association scientifique qui est toujours aujourd'hui. Et dans cette lettre écrite en allemand, il recommande que la société adopte Henri Denon comme membre correspondant. Cette lettre fut publiée il y a quelques ans dans le bulletin de la société. Je vais raconter un épisode qui s'est passé hier, parce que chez un ministre de Genève, j'ai trouvé une biographie d'Henri Appia, le neveu de Louis. J'ai feuilleté ce livre, et dans ce livre, se dit que le neveu de Louis Appia a fait ses études de théologie, entre autres à Berlin. À Berlin, cet étudiant d'une vingtaine d'années a été invité à la cour. Il a été reçu par le prince impérial, Frédéric, futur empereur Frédéric. Et donc, on pourrait supposer que c'est à cause de la recommandation de Louis Appia, parce que c'est pas normal qu'un étudiant soit invité à la cour et soit reçu par le prince héritier. Et dans des notes dans ce livre, dans cette biographie, Henri dit qu'on avait beaucoup parlé de Louis Appia, donc l'entretien entre le prince impérial et Henri Appia se tournait autour de Louis Appia. Donc on pourrait supposer que c'est la recommandation de Louis pour son neveu Henri qu'il a convaincu de faire ses études en Allemagne. Et après, Henri Appia a changé d'université, il est allé de Berlin à Erlangen. Et Erlangen, on va le voir plus tard, est une des villes où Appia était membre de la société médicale qui existait à Erlangen. Il y a des écrits en allemand par lui-même, et on peut parler des traductions, des œuvres de vers l'allemand. Il y a plusieurs types de publications. Commençons par le Congrès international de Berlin de 69. Louis Appia était présent à ce congrès. La langue de ce congrès était l'allemand. Le compte-rendu est écrit en allemand, et dans ce compte-rendu, toutes les prises de parole qui sont prises en autre langue que l'allemand sont marquées, la langue est marquée. Louis Appia a pris la parole plusieurs fois, et chaque fois on note un français. Donc, bien que la langue de ce congrès ait été l'allemand, Louis Appia a parlé français, non pas allemand, bien que l'allemand était aussi courant comme ça. Nous savons de quelques opuscules préparatoires pour son examen final à l'université de Heidelberg. Il était nécessaire qu'il composât ses rétrapris à ce moment. Et ces opuscules, tous écrits en allemand, sont conservés dans les archives de l'université de Heidelberg. Donc nous possédons une douzaine d'opuscules entre 2 pages et 22 pages. Ils sont conservés en forme manuscrite, et peut-être il vaudrait la peine qu'un médecin déjà fait ses recherches pour juger de la science de cette époque. Ils ne sont pas encore écrits. Ça, c'est le seul opuscule publié, imprimé, sur la prophylaxis der Blindheit et son Augenentzündung. Je pense que vous le montrez. De la prophylaxie de la cécité au point de vue des ophtalmies contagieuses. Cet opuscule est disponible dans la bibliothèque de Genève d'ici. Et il semble, d'après les recherches bibliographiques, cet exemplaire de la bibliothèque est le seul qui existe au monde. C'est tout, écrit en allemand par Louis Appiah lui-même. Nous avons son, vous savez, le récit qu'il a préparé pour le comité de la Croix-Rouge, qu'il a voilé au front allemand-danois pendant la guerre pour voir si tout ça qu'on avait prévu pour la convention de Genève, si tout cela fonctionne dans la réalité. Donc c'est un texte très important, hautement important. On ne veut pas exagérer, mais je pense qu'on pourrait le comparer à Ferrino pour la... il a une importance semblable pour la Convention de Genève et c'est étonnant que ce récit a dû attendre dans 2018 pour être traduit en allemand jusque 2000. Il n'y avait pas d'autre version que la version française. Maintenant, il y a la version allemande et la version italienne. Elle existe déjà ou,
La traduction est faite, mais le livre n'est pas encore fait.
Ah. En même temps, cette traduction du texte de Louis Appiah est le premier volume de la Beiträge zur Kreuzgeschichte. C'est une assez nouvelle collection de contributions à l'histoire de la Croix-Rouge. Entre-temps, il y en a 4 volumes. Et un des volumes qui seront les actes du congrès de Hanau il y a une préface de Jan Hasselfeld, la présidente de l'UNE. Elle salue pas non seulement l'apparition de ce volume, mais salue aussi la traduction du texte hautement important par Louis Appiah. Il y a quelques écrits publiés sur Louis Appiah, non pas beaucoup, et presque tous sont à leur origine dans le contexte du bicentenaire en 9. Ce sont les deux historiens, l'un Gerd Stolz, c'est un historien du nord de l'Allemagne, un historien régional, et Erhard Fuss, un historien qui s'est au centre
de l'Allemagne. Passer directement par, depuis ton ordinateur, le suivant, et encore le suivant. Voilà. Je crois que le plus simple, c'est que Reinhold, tu demandes à Elien qui va faire passer les livres, parce qu'on a un problème avec la télé.
Donc la première publication mentionnée de Gerd Stolz est apparue à l'occasion du 60e de la Croix-Rouge en 2013. Et lui se concentre sur Louis Appiah et aussi sur Charles van de Velde, donc les deux délégués dans la guerre du Schleswig, Louis Appiah sur le côté anglais, sur le côté danois. Et donc il décrit le rôle des deux, le rôle comme délégué du comité international et dans la guerre, et il parle des cas et aussi le. Même Gerd Stolz a rédigé un livre sur la guerre au Schleswig qu'il appelle 1864, année fatidique danoise. Et dans ce livre, il consacre aussi une dizaine de pages à Louis Appiah. Deux publications de Gerd Fuss de Hanau. La première. Est presque identique avec les textes des Rolap de l'exposition qui fut présentée à Hanau et plusieurs autres. Ein Lebensweg im Sinne der Humanität von Hanau nach Genf. Et on ne sait, dans cette publication aussi, on remarque qu'on ne sait pas beaucoup sur le pèlerinage de Liapia, parce que c'est un sage, mais la plupart de la, à la situation politique, à la situation sociale de Genève à l'époque de Liapia, et ce sont seulement quelques peu d'aspects qui servent directement à Liapia, et c'est le même la prochaine dans le magazine Varanové. Dans cette revue aussi, il a publié sur une antenne, sur un matériel. Il y a assez de sociétés qui ont nommé l'UNAPIA membre ou membre correspondant de leur société. La société scientifique de Heimau, de la Wetterauische Gesellschaft. Il fut aussi membre de la société, membre correspondant de la Société médicale allemande de Paris, cette association qui existait depuis le 19e siècle, parce qu'il y avait une grande communauté allemande à Paris. On sait qu'à l'époque de 1800, elle comptait à peu près 70 000 personnes. 70 000 Allemands à Paris, donc on avait besoin de médecins allemands. Et Liapia était membre de cette société. Il était membre correspondant de la Société médicale à l'époque, c'était à Lannes, donc l'université où elle a fait ses études sont de Francfort et d'autres, et il fut chevalier de l'ordre du Lion, le duché de Bade, le grand-duché du Bade, c'est le fils de Bade, était la grande-duchesse qui était une importante pour la. Et il y a la structure qui est entre Liapia et la première note que j'ai trouvée, qui vient aussi d'une autre qui était patient à Monde, je l'ai trouvée en Liapia que j'ai trouvée hier. Il y a une note qu'il a reçue la Croix de Fer par l'empereur. Et c'est un peu extraordinaire parce qu'en général, ce sont seulement les militaires qui reçoivent cette Croix de Fer. Donc il serait intéressant de voir que c'est vraiment vrai que Liapia a reçu ce non-militaire. Il y a quelques autres publication immatérielle ou en métal. Donc, la prochaine. La première, c'est la cérémonie qui se déroule chaque an à Duppel. Prochainement, il y a une semaine. Chaque année, le 22 août, pour la commémoration de l'Ève. Et il y a un spectacle à Duppel, au Danemark, qui est organisé communément par la Croix-Rouge danoise et par la Croix-Rouge allemande, en général la Croix-Rouge de Schleswig-Holstein. Et on commémore la bataille de Duppel et aussi Liapia, qui fut le délégué, et dont le Passard qui portait. Prendre la pierre commémorative. Vous connaissez les bustes, il y en a plusieurs. On se trouve ici à Genève, dans le bâtiment de la ville. Autre se trouve.
Merci
à vous. On va l'inaugurer tout à l'heure. L'illuminer, tu vois.
Mais c'est la même chose avec Brunweide. La buste à gauche se trouve à Brunweide. Actuellement, elle se trouve dans le bureau du directeur de la branche régionale de la Croix-Rouge, mais la Croix-Rouge de Luckenwalde vient d'inaugurer un centre de formation, un centre de recherche, de formation des volontaires, etc. Et il est prévu que Liapia déménage dans ce bâtiment pour que plus de personnes puissent le voir.
Juste dire que le personnage de droite, c'est M. David Appia, qui est le créateur du buste. Il est le créateur, donc lui est un haut fonctionnaire français, il est descendant de Georges Appia le frère, et en même temps, son violon dingue, c'est la sculpture. Et alors, il a créé ce buste, et tout le monde était émerveillé, parce qu'on a tout de suite, on a vu Louis Appia.
Voilà. Il y a quelques, ce sont, je crois, 3 ans, j'étais à Paris pour... j'avais rendez-vous avec Appia pour aller chercher le buste pour le combat. Le buste à gauche, c'est le buste qui se trouve à Hanau. Actuellement, il se trouve dans le couloir de l'hôtel de ville qui mène au bureau du maire à Hanau. Et actuellement, pendant la pandémie, il y a un site internet, ça s'appelle Objet de la semaine, qui présente des différents objets des collections muséales de la ville de Hanau. Et le numéro 14, plus longtemps, il y a la rue Louis Appia, du docteur Appia Strasse, à Hanau, par une grande rue. C'est une voie sans issue, mais c'est la plus ancienne qui existe en Allemagne. Vous voyez, le premier Louis Appia, né à Hanau, au fondateur de la Croix-Rouge. Nous restons un peu à Hanau la prochaine, à l'occasion du bicentenaire, la Croix-Rouge de Hanau a baptisé son siège en Louis Appia Forum, Forum Louis Appia, et le bâtiment est donné par une assez grande image illuminée dans la nuit. C'est l'inauguration de... Vous voyez quelques membres de Genève, etc. Sans à Francfort, depuis quelques années, depuis 2014, il y a la Louis Appia Passage près de la gare de l'Est de Francfort. C'est une petite rue qui lie un quartier nouveau de Francfort avec la gare de l'Est. Donc c'est une rue... non pas une voie sans issue, mais une rue qui est fréquentée par beaucoup de gens qui prennent leur chemin vers la gare de l'Est. C'est peut-être curieux, vous ne le savez pas. L'initiative pour cette rue était prise par le Parti Les Verts, qui ont pris l'initiative et ont soutenu cette initiative. Donc, en Allemagne, il y a deux rues Appia, en reste d'une avenue Appia à Genève. La prochaine. Les perspectives d'avenir, j'avais dit qu'il y a peu de publications sur Louis Appia. Un des prochains volumes de la collection Beiträge Kreuzgeschichte seront les actes de ce... Et ce volume sera un volume bilingue, en français et en allemand. Donc il y a assez de contributions qui illuminent la vie de Appia et ils seront disponibles aussi en allemand. Et il y aura une biographie sur Louis Appia, mais c'est Valérie Lavion qui a mentionné les biographies par Roger Durand et François-Gustave Moynier et Henri Dumont. À l'époque, la Croix-Rouge allemande s'était souciée de traduire son nom, et la Croix-Rouge allemande a déjà promis qu'il cherchera des moyens financiers pour traduire aussi cette là. Donc nous aurons même en allemand une biographie sur l'air.
Inauguration et peut-être une occasion pour un petit cadeau. Et donc, j'ai pris pour Roger, pour ton Saint-Henri Dunant, les 4 volumes de la collection des batailles sur le poids de Schiste qui jusqu'ici sont parus.
Merci. Je le remercie. Alors oui, véritablement un chaleureux et admiratif merci pour notre ami Rainer qui a réussi à nous faire une présentation très, très variée et aussi très gründlich de Louis Appia en Allemagne et qui nous a appris un certain nombre d'éléments complètement nouveaux. Et c'est particulièrement intéressant. Et au sujet des lettres écrites en allemand, alors une partie des archives était conservée en France et leur accès n'était pas extrêmement facile. Et effectivement, nous avons eu accès à en tout cas une ou deux lettres en allemand que Louis Appia écrit à son frère Georges. Il y a une lettre qui est très amusante parce que son frère, qui est plus jeune, qui est un pasteur, qui a fait beaucoup de théologie et peut-être qu'il a lu beaucoup plus la Bible que le Kama Sutra, écrit à son grand frère, dis donc, qu'est-ce qui se passe avec ma jeune épouse? On n'a pas la lettre, mais on a les réponses de Louis, en allemand. Et Louis Appia lui dit, mais écoute, si elle mange des produits d'habitude, elle n'aime pas du tout. Si elle a des sautes d'humeur, si parfois elle veut beaucoup dormir, si d'autres fois elle est excitée, si, etc., etc., il n'y a qu'une seule explication, elle est enceinte. Et la jeunette est écrite en allemand, très certainement parce que Louis ne veut pas que l'épouse tombe sur cette lettre et la comprenne. Et c'est une très, 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 très jolie lettre. Alors, il faut acheter. On vient, disons, la livraison des archives de France commence à se débloquer maintenant. Alors, il y aura des choses. Donc, je devais vous parler de la biographie de Louis Appia. Elle n'est pas prête, zut, crotte et flûte, j'ai pas réussi, mais nous n'arrêtons pas d'y travailler. Et je pensais plutôt, un, ne pas être trop long, et deux, plutôt parler d'un autre sujet qui soit plus écuménique, si l'on peut dire, puisque du Appia, vous en avez entendu autant que vous vouliez aujourd'hui, alors que c'est un centre en ville du Nant pour du Nant, pour Moignier, pour Monnoir, pour Dufour et pour tous les autres. Donc, j'ai préféré prendre comme sujet pourquoi la Croix-Rouge est-elle née à Genève. C'est une question qu'on me pose très très souvent. Et il y a un certain nombre d'éléments, ils ne sont certainement pas exhaustifs, mais d'éléments qui peuvent être assez intéressants, parfois même assez surprenants. Alors, il est clair que la date du 22 août 1864 est vraiment considérée comme la première fois qu'il existe dans le monde un mouvement humanitaire qui a pour vocation de secourir des êtres humains en détresse ou en grave danger. Et nous connaissons ce mouvement la Croix-Rouge qui était fondé sur deux principes clés. Un, la neutralité. La neutralité du blessé ou de la personne en détresse. Neutralité politique, religieuse, raciale, idéologique, nationale. C'était un premier concept tout à fait important et caractéristique du mouvement humanitaire international. L'autre caractéristique, c'est l'universalité, c'est-à-dire que la démarche humanitaire concerne tous les êtres humains de toute la planète. Je peux vous dire qu'en 1859-64, période de la gestation, il y avait une hiérarchie infiniment claire et terrible entre les Blancs et le reste de la population mondiale. Donc, cette universalité est un principe fondateur. Et puis, on a un troisième principe fondateur, à mon avis, c'est la protection du personnel sanitaire. C'est-à-dire que, pour la première fois, les États conviennent que celui ou celle qui soigne un être en détresse, qu'il soit un ennemi ou qu'il ne soit pas un ennemi, on ne peut pas l'inquiéter. Alors qu'il était dangereux de soigner un soldat ennemi lors des guerres à cette époque même, déjà, ou encore. Donc, cette convention de Genève du 22 août 1964, c'est véritablement un cap franchi dans l'histoire de l'humanité. Pourquoi est-ce que ça a eu lieu à Genève et pas ailleurs? Parce qu'il y a eu un tas de villes, un tas d'États où on était charitable, on était bienveillant vis-à-vis de celui qui souffre, etc. Pourquoi Genève? Alors, j'aimerais juste retracer deux ou trois caractéristiques de cette ville-État qui est Genève, dont étaient citoyens les cinq fondateurs. Ensuite, on jettera un tout petit coup d'œil planétaire, vraiment très, très bref, mais à mon avis assez indispensable pour comprendre la démarche. Et ensuite, on verra en quoi ces cinq fondateurs ont quelques caractéristiques qui ont fait qu'ils étaient différents des autres, ou qu'ils ont abouti à une création qui n'avait jamais été faite par personne sur la terre entière. Alors, Genève, ville-État. On va à toute vitesse, naturellement. Vous savez qu'au Moyen-Âge, Genève est une ville qui bénéficie de l'immédiateté impériale. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de duc, il n'y a pas de roi qui peut s'occuper de Genève, c'est seulement l'empereur. Or, l'empereur a une excellente idée, c'est qu'il habite très loin en Allemagne, parfois en Italie. Il n'est venu qu'une seule fois à Genève, c'était vers l'an 1020 pour inaugurer la première cathédrale. Mais après, on n'a plus jamais vu d'empereur, donc un petit peu, on a eu la paix. L'autre immédiateté, elle est incarnée par le prince-évêque. Genève est soumise et sous les ordres dans le système féodal d'un prince qui est évêque, donc qui aurait fait au pape. Ma connaissance, aucun pape n'est venu à Genève, et l'Italie, c'était quand même bien loin. Donc on a une ville-État qui est féodale, qui est sous la domination d'un prince-évêque, mais qui bénéficie quand même d'une marge de manœuvre assez vaste. Beaucoup d'autres villes au Moyen-Âge étaient dans cette situation, mais Genève en fait partie, et c'est une des rares villes qui a réussi à garder son statut jusqu'en 1798. Deuxième élément médiéval, toujours les foires. Vous savez qu'au XVe siècle, Genève devient une des grandes villes de foire de l'Europe occidentale. C'est naturellement la richesse, mais c'est aussi le contact avec le monde extérieur, parce que les marchands amènent des idées, des approches, etc. C'est l'ouverture, on pourrait dire, sur l'Europe. Troisième étape, 1535, c'est-à-dire la double révolution qu'on oublie. Alors, la révolution religieuse, on se la rappelle, on abolit la messe et on adopte la réforme. Mais l'autre révolution, celle-ci, on n'insiste pas trop, mais c'est une révolution politique. C'est-à-dire que les citoyens, des simples habitants, ont l'audace de chasser leur seigneur féodal qui était reconnu par l'Europe entière. Puisque en chassant l'évêque, on chasse à la fois le représentant du pape, mais aussi le représentant de toute la hiérarchie féodale et naturellement la maison de Savoie qui a beaucoup d'intérêt sur Genève, qui aimerait la contrôler. Donc il faut vraiment se rappeler que le Genevois, au XIXe siècle en tout cas, peut-être même aussi aujourd'hui, a hérité dans ses gènes une mentalité de révolté, de rebelle, d'indépendant. Et ça va nous expliquer quelques autres comportements plus tard. La réforme, et quand même, il faut le rappeler, elle, au niveau spirituel, au niveau religieux, elle instaure la primauté de la conscience individuelle, hein, c'est le fameux argument numéro 1 de Luther, ça veut dire que chaque être humain obéit à sa conscience avant d'obéir à d'autres impératifs spirituels. C'est une révolution qui n'a pas été complète, puisqu'on est quand même encore assez intolérant et à Genève et dans tous les autres pays d'Europe, mais par la réforme, on acquérera une liberté d'esprit, une capacité de création qui est particulièrement intense. La réforme, c'est quoi aussi? C'est un livre unique. La Bible, les traités de théologie, on n'en veut plus. Les livres des saints, on n'en veut plus. La Bible, sola scriptura. Et ça aussi, c'est très important, parce qu'on a un livre de référence. Nous parlerons des livres de référence tout à l'heure aussi. Mais la réforme, c'est aussi la mission, c'est l'évangélisation. Il est hors de question de garder sa foi pour soi. On doit témoigner, on doit évangéliser. Donc il y a cet élément qui est complété par l'élément charité. N'est-ce pas? Dans le dispositif de Calvin, il y a les diacres qui, eux, sont chargés de s'occuper des pauvres, des malheureux, de la cité. Donc on a là un certain nombre de caractéristiques qui vont influencer 200-300 ans plus tard, nos fondateurs, parce qu'ils en sont véritablement les héritiers. Un petit saut sur le XVIIIe siècle pour rappeler que Genève, à ce moment-là, s'enrichit, on sort de la richesse, de la pauvreté du XVIIe et du XVIe siècle, et on a donc l'opulence, pas répartie partout, bien entendu, mais on a un certain nombre de grands bourgeois qui ont beaucoup de moyens. Ça permet à un certain nombre de ces bourgeois de devenir des savants de premier plan, donc contact avec les réseaux intellectuels de l'Europe entière et même aussi des jeunes États-Unis. Et puis, on oublie au XVIIIe siècle, 1781-82, c'est la Révolution. Genève fait sept ans avant la France sa grande révolution. Mais cette révolution est immédiatement jugulée par la France, la Sardaigne et Berne, qui amassent des troupes, de sorte que les révolutionnaires doivent partir s'exiler pour la plupart d'entre eux. Et donc, on a un XVIIIe siècle qui est assez foisonnant, mais aussi de nouveautés, de révolte contre l'ordre établi. On peut donc résumer que jusqu'à la fin de l'Ancien Régime, donc l'occupation française 1798-1813, Genève est une forteresse, ça on l'oublie aussi. Genève est une ville militaire. Le territoire occupé par les défenses militaires de la ville est plus vaste que le territoire occupé par les habitations. On est donc véritablement dans une citadelle. Le budget militaire est énorme. On est soldat, on ferraille, on se bat, on participe à la dernière guerre de religion en 1712 à Villemengen. Les sociétés militaires sont très prisées. Et on n'hésite pas d'ailleurs de temps en temps à faire des prises d'armes, c'est-à-dire des petites guerres civiles. Quelques jours, quelques personnes sont tuées, puis après on trouve une solution, on continue. Mais on verse le sang à Genève entre Genevois. C'est quelque chose qui fait partie de la vie courante. J'insiste sur ces points-là parce que maintenant on vit dans un monde complètement différent. Donc une ville forteresse. Mais en 1815, quand Genève est admise dans la Confédération, elle bascule dans un monde de sécurité. La neutralité qui est garantie par les puissances au traité de Vienne. On croit que cette garantie est inviolable. 100 ans plus tard, la Malheureuse Belgique verra que ce n'est pas le cas. Mais ça signifie que depuis le début du 19e siècle, c'est le moment où se commencent à vivre nos futurs fondateurs, on vit une nouvelle ère, on vit, on pourrait dire, une ouverture sur le monde qui va être matérialisée, par exemple, depuis 1849, par la démolition des murailles, qui était une sorte de carcan dans lequel Genève étouffait. Et dernier point, par rapport à la ville-État, c'est 1846. Octobre 1846, c'est la révolution radicale, c'est-à-dire l'arrivée de James Fazi et des radicaux au pouvoir, qui vont le contrôler presque tout le 19e siècle, par la parenthèse Adore. Et Genève, donc, accède à de très nombreux droits politiques qui n'existaient pas avant, notamment le droit pour les catholiques, les orthodoxes de vivre normalement à Genève, mais c'est aussi l'égalité, on ne doit plus payer d'impôts pour voter, et donc on s'achemine vraiment vers une démocratie telle que nous la connaissons aujourd'hui, c'était nouveau. Et cette expérience de la révolution aura d'ailleurs des conséquences directes sur nos âges finales. Je passe maintenant au coup d'œil planétaire, ça ira très très vite. Mais ce qui me frappe, c'est qu'au milieu du 19e siècle, hein, nous sommes 1851-1864, il faut se rappeler que on commence une vision mondiale des activités. Pour moi, c'est le début de la mondialisation, qui est incarnée en 1851 par l'exposition universelle de Londres, et en 1855 par l'exposition universelle de Paris. Et puis, Valérie a fait une étude sur des grandes manifestations culturelles, scientifiques au 19e siècle. C'est le début d'un flamboiement, d'une multiplication de réunions de toutes sortes. On entre vraiment dans un horizon mondial, naturellement avec une immense hiérarchie, c'est-à-dire qu'il y a les civilisés, donc ils sont blancs, ils sont chrétiens, et ils sont dans l'hémisphère nord, et puis il y a les autres. Alors l'autre caractéristique pour moi de ce milieu du 19e siècle, c'est que nous sommes dans une civilisation chrétienne, qu'elle soit catholique, protestante, luthérienne, orthodoxe, et cette civilisation chrétienne est sûre d'être la meilleure au monde, elle est même sûre d'être la nécessaire pour le reste du monde, et elle considère le reste du monde comme des territoires de conquête. Et c'est véritablement la ruée sur l'ensemble de la planète. Alors ça avait commencé avant, vous êtes d'accord, mais depuis ce moment-là, ça va être extrêmement intense. Il est donc complètement normal d'avoir des guerres coloniales, d'éliminer des populations rebelles et d'imposer nos modes de vie, nos modes de croyance, nos fonctionnements au reste du monde. Et on le voit avec la guerre, la France en Algérie, on le voit avec les colonisations qui sont maintenant systématiques, on se partage le reste du monde, on a une très bonne conscience d'apporter tous les bienfaits de notre monde à nous. Avec, en plus de ça, une très forte évangélisation, c'est-à-dire qu'on va aussi apporter la religion chrétienne, chacun selon la sienne. Et on est forcé de dire qu'entre cette éclosion de la mondialisation et cet orgueil, cette suffisance d'être supérieur à tous les autres et de vraiment rendre service à ces malheureux peuplades arriérées, on a là un mélange qui est extrêmement explosif. C'est tout à fait propice pour des créations nouvelles. Alors nous, la seule création qui nous intéresse, c'est la Croix-Rouge. On y arrive. On a donc cinq hommes qui réalisent une prouesse tout à fait extraordinaire. Tout de suite rappeler qu'ils ont bénéficié de l'aide de beaucoup de sympathisants dans l'Europe entière, que ce soit des médecins, des politiques, des nobles ou des journalistes, etc. Ils n'ont pas pu le faire tout seuls, mais c'est eux qui ont vraiment été le moteur, les initiateurs de ce mouvement. Alors qu'est-ce qu'ils ont comme point commun? Le général Dufour, qui est né en 1787, c'est le père ou grand-père de ces messieurs, Théodore Monnoy, 1806, Louis Appia, 1818, Gustave Moynier, 1826, Henri Dunant, 1828. Qu'est-ce qui fait que ces cinq hommes réussissent un truc auquel personne ne s'attendait et qui dure encore aujourd'hui? Qui, heureusement, est un truc plutôt positif. Alors, on peut dire qu'ils sont profondément genevois. Hein, ils ont l'orgueil d'être citoyens de Genève, etc. Bon, Appia, ce sera que depuis 1860, n'est-ce pas? Mais il vient quand même genevois. On se rappelle que Dufour, donc, il est complètement genevois, mais il est né français, puisqu'il est né genevois, mais à Constance, donc réfugié politique. Ensuite, il vient à Genève, il sera citoyen de l'Empire français, puis après, il revient genevois. Moynier, une bonne partie de sa vie, elle est en France. Son papa avait acheté quelque chose à Ferney Voltaire pour fuir les révolutionnaires. Gustave Moynier fait ses études à Paris. Et dans la famille Moynier, on voyage énormément. C'est un des éléments qu'on a découvert en 2010. C'est tout à fait étonnant la famille, c'est un petit noyau, hein, c'est monsieur, madame et fiston, ils font beaucoup, beaucoup de voyages, on est tourné vers l'extérieur. Alors Louis à Pierre, Rainer nous l'a rappelé, il est allemand, est très influencé par la culture allemande, et jusqu'à l'âge de 31 ans, c'est l'Allemagne qui est son horizon, qui vient de temps en temps à Genève, mais il est basé, il sera formé, et il aura ses premières pratiques médicales à Francfort, donc jusqu'à l'âge de 31 ans. Monnoir, il est intéressant, il est aussi très fondamentalement genevois, mais si on peut juste le... c'est pas un détail, l'aspect mariage, en premier, il épouse une Française, fille d'un académicien, et puis ensuite, il épouse une Américaine, fille d'un évêque anglican. Donc, on a là aussi une ouverture assez impressionnante. Et quant à Henri Dunant, eh bien, bah, il est genevois, très fier d'être genevois, il ne fera pas comme Rousseau, il n'a pas renoncé à sa citoyenneté genevoise, mais vous savez que depuis 1867, il sera très fâché avec Genève, il reste genevois, mais il est français naturalisé, et puis c'est un grand voyageur, vous savez qu'il essaye sa vie en Algérie, en Tunisie, mais il a aussi beaucoup voyagé, surtout en France, en Belgique, aux Pays-Bas, dans la période d'Union chrétienne de Genève. Donc on a à la fois des genevois purs sucre, si l'on peut dire, mais en même temps des hommes qui, par leur milieu, par leur situation, ont une ouverture sur l'Europe. Deuxième point commun, ce sont les philanthropes. C'est-à-dire que au XIXe siècle, vous savez que l'État n'a sur quasiment aucune fonction qu'on appellerait sociale, et la prise en charge des malheureux, des pauvres, des accidentés, des veuves et des veuves, ça ne dépend que de la charité publique. Et à Genève, il y a un foisonnement de sociétés charitables, la plupart du temps liées aux églises, mais il y a aussi cette fameuse société genevoise d'utilité publique qui essaye de lutter contre les causes du paupérisme. Il est réconfortant de savoir que Dufour, Moignier, Appia, Beaunoir sont les membres actifs de la société d'utilité publique. Deux d'entre eux seront même présidents plusieurs fois. Il n'y en a qu'un seul qui est absent, c'est Henri Dunant. On doit faire entrer dans toute catastrophe à la société d'utilité publique au moment où on veut préparer le dispositif du CICR. Donc, nos philanthropes sont aussi géographes. C'est aussi un des points communs entre eux. C'est assez amusant. En 1858, se fonde à Genève la Société genevoise de géographie. C'est une des deuxièmes ou troisièmes en Europe. Mais à l'époque, les Genevois ont des savants de niveau mondial. Notamment, elle est nommée Paul Schell, un certain Boutillier de Beaumont. C'est vraiment des noms dans le monde scientifique de la géographie. Et ainsi, il fonde en 1958 cette société, mais parmi les fondateurs, c'est quand même bizarre, on trouve Henri Dunant, qui lui, il est en plein dans ses affaires d'Algérie, il vient publier son bouquin sur Tunis, et il est un des 11 fondateurs de cette société. Et dans l'année qui suit Moignier, Adhère, et dans l'année suivante, Appia adhère aussi. Bon, là, je n'ai pas retrouvé. Mais en tout cas, c'est un petit cénacle, hein, ils sont 11 fondateurs. Mais on fait quelque chose ensemble, et cette société de géographie, c'est, on a vu l'époque où l'Europe se jette sur le monde, donc c'est très intéressant d'avoir une démarche scientifique aussi pour reconstituer les cartes, les voies d'accès, les fleuves navigables, et puis surtout les ressources minières, etc. etc. Donc on a là un point assez étonnant. Géographie pour Dufour, pourquoi? Puisqu'il est en train à ce moment-là de mettre la dernière main à son chef-d'œuvre scientifique, c'est-à-dire la carte topographique de la Suisse, la fameuse carte Dufour, qui restera jusqu'à la Première Guerre mondiale, un instrument de référence. Alors, nos géographes, comme tout bon genevois, font partie de moult associations. Et alors, on les retrouve en tout cas ensemble à la Société de lecture, qui à l'époque est une société très, très huppée et chère à l'accès, la Société des arts par exemple. Il y en a certainement d'autres que je n'ai pas investiguées. Mais il faut se rappeler que Genève est encore très encerclée par ces murailles qu'on démolit, on ne l'a pas encore construit. Donc, ils habitent tous les uns après les autres. C'est très impressionnant. Il y en a à la rue Étienne Dumont, il y en a un autre à la rue du Soleil Levant, on en a un autre qui est au pied du Bourg de Four. Ils sont tous à portée de pas. Ils ne peuvent pas faire autre chose que de se rencontrer, en plus du fait que bon, on touche. Un autre élément qu'on n'avait pas assez saisi, c'est qu'ils sont tous bonapartistes. Bonapartiste, c'est-à-dire admirateur de Napoléon Ier, ce traîneur de sable, n'est-ce pas, mais qui avait quand même amené quelques libertés nouvelles en Europe. Et puis, surtout, ils sont partisans de Napoléon III, qui vient de faire un coup d'État en 51, un coup d'État violent, et qui en 52 se fait couronner empereur. Et c'est étonnant de voir l'engouement de bon, Dufour, on le sait, puisque c'était le maître à penser de Napoléon III, mais Dunant est simplement un admirateur béat de Napoléon III. Il a écrit un bouquin incroyable, l'Empire de Charlemagne reconstitué par sa majesté l'empereur Napoléon III. C'est un truc qu'on n'ose même pas lire, hein, parce qu'il est un petit peu illuminé. On dirait qu'il a fumé quelque chose avant d'écrire ce bouquin. Mais même Appia, je viens de trouver une lettre, il écrit au chancelier des anciens soldats de Napoléon Ier et il offre ses services pour soigner les derniers survivants qui sont là gracieusement. Étonnant, n'est-ce pas? Pour Monloir, je ne sais pas. Mais en tout cas, pour Moigné, je ne sais pas non plus. Mais on a là, de nouveau, un point de convergence qui nous intéresse parce que c'est le rôle du grand homme. Quand on est bonapartiste, c'est-à-dire qu'on attend qu'un chef prédestiné, providentiel, change la face du monde. Et c'est une vision qui est aussi assez intéressante par rapport à leur effort pour changer une autre face du monde. Et puis, c'est peut-être lié à leur appartenance à la société d'utilité publique, ils sont tous anti-esclavagistes. Je vous rappelle que la France a supprimé l'esclavage dans ses colonies en 1848 et qu'il y a encore beaucoup de pays du monde où on pratique l'esclavage de façon complètement ouverte, etc. Notamment des pays qui prétendent avoir découvert la démocratie et le bonheur de tous, les États-Unis, où l'esclavage sera supprimé dans les textes en 1863, puis dans la réalité en 1963. Donc, là, être anti-esclavagiste, proactif, parce qu'ils le sont, c'est aussi un élément de cohésion, on pourrait dire, idéologique dans leur engagement. Il y a un autre élément que les historiens commencent à découvrir maintenant, c'est le fait qu'ils sont exclus de la politique. Nos bourgeois, grands bourgeois, ont des ambitions, ils veulent faire carrière. Et depuis la révolution de 1946, c'est impossible. Bon, on met de côté le général Dufour parce qu'il était hors caste, hors combat. Il va être membre élu du pouvoir législatif ou à Genève ou à Berne pendant 50 ans, tout simplement. C'est incroyable le nombre de choses que Dufour avait faites. Et donc lui, là, mais il est toujours dans des commissions d'urbanisme ou du chemin de fer, des choses de ce genre. Mais les autres, ils sont tous anti-radicaux, mais à un point épidermique. Le plus clair, c'est Gustave Moigné. Son papa, il était conseiller d'État en 1846, un des cinq membres du gouvernement genevois. Et il fait partie des grands vaincus de 1846. Et Moigné, qu'est-ce qu'il fait au moment où la révolution tourne mal? Il saute dans une calèche et il va se réfugier à Annecy, chez l'évêque d'Annecy. C'est amusant, mais au moins c'est un moment qui avait une certaine ouverture d'esprit. Et on ne va pas le revoir dans la région, il a peur. Et son fils, Gustave, ben, il va faire son droit à Paris, sa thèse à Paris. Donc, Henri Dunant déteste les radicaux, on a un certain nombre de lettres très amusantes, où vraiment alors là, la ville ou le fort hein, contre les radicaux, et qui sont en même temps francs-maçons, enfin bref, toute une sorte d'incarnation du mal. J'ai trouvé une lettre de Monnoir qui est tout à fait fâché contre les radicaux, et en 1946, lors de la la Révolution, où il y a eu des blessés et il y a eu des morts, on a par chance conservé les noms des médecins qui ont soigné qui. Alors, on voit qu'on soigne des blessés de 46, mais je peux vous promettre qu'il n'y a pas de cordonnier, il n'y a pas de paysan, il n'y a pas de femme de ménage, c'est que l'aristocratie genoise qui soigne. C'est un hasard, ou bien il était dans ce camp-là. Mais, on a une autre lettre où il écrit au président du département de l'institution publique, je peux vous dire que c'est une lettre énergique. Non, on n'aime pas les radicaux. Et ça va entraîner une conséquence extrêmement importante, c'est que ce sont les privés qui vont lancer le mouvement de la Croix-Rouge en cachette du gouvernement politique genevois, par aversion et peut-être pour d'autres raisons. Mais ça va jouer un rôle déterminant sur le succès de l'entreprise, parce que tous les pays qui vont être invités, leur premier souci, c'est on ne veut pas que ce soit un autre pays qui ait l'avantage de ce qu'on va faire. Alors avec Genève, on est tranquille. Un, c'est une république. Je vous rappelle qu'à l'époque, la Suisse était la seule république de toute l'Europe. D'autre part, c'est lancé par des privés, certains très honorables, notamment Dufour, mais aussi Moynier, bien connu dans les milieux philanthropiques, et du Nord dans les milieux des unions chrétiennes. Cette initiative privée, cette mise à l'écart du gouvernement à la première conférence de l'octobre 63, elle est confirmée en 64, parce qu'à ce moment-là, on a un congrès diplomatique qui est invité par le gouvernement fédéral suisse. Alors ça, c'est grâce à l'influence de Dufour, mais à ce moment-là, Dufour gronde Dunant, parce que Dunant, qui est secrétaire du comité, il écrit une lettre au gouvernement genevois en disant de telle à telle date, on a un colloque diplomatique, voilà, je vous ai dit ce qu'il fallait vous dire, au revoir monsieur. La lettre de Dunant au gouvernement, elle est incroyable. Et alors, Dufour, l'admoneste, et puis on va essayer de réparer un tout petit peu, et lors des festivités du congrès, il y aura, une fois, on invitera le gouvernement genevois. Mais il y a un débat entre Dunant et Moynier qui ne veulent pas, par exemple, que le chancelier, ennemi du commun, chancelier officiel de la République, soit invité, parce que c'est un sale radical, c'est un franc-maçon, on ne veut pas lui. Donc il y a cette volonté de prendre des distances par rapport aux politiques, qui est causée par des raisons plus ou moins honorables, mais qui déclenche une excellente conséquence, c'est que les États qui vont envoyer des délégués se rendent compte que ça ne va pas être une combine pour mettre la Suisse en avant, ou surtout mettre une hiérarchie dans les groupes. Les deux derniers points qui vont sembler intéressants par rapport à pourquoi cette équipe réussit par les autres, le premier, c'est qu'ils sont tous des chrétiens engagés. Ils sont tous protestants, mais ils sont tous très engagés. Alors, on sait que Dunant et Appia militent dans le réveil. Je peux vous dire que là, ils ne sont pas tièdes. Ce sont des hommes extrêmement précis, engagés, missionnaires et très, très fervents. Dufour et Moynier sont très engagés dans l'église protestante de Genève. On sait que Dufour fait partie du consistoire. Moynier en sera aussi. Pour Monnoir, je n'ai pas trouvé. Mais vous l'avez vu, Monnoir, il a un horizon œcuménique, puisque, un, il a fait un mariage catholique à Paris en 1834-35, et puis il fera un mariage de nouveau, je crois, à Paris avec Christine Jarvis, mais je ne sais pas comment quelles ont été les modalités. Pour moi, en quoi est-ce que cet engagement chrétien est important? C'est le livre, hein, la Bible, on en a déjà parlé, mais en tout cas, pour Dunant, ça va jouer un rôle très important, et pour les autres aussi. Au moment où eux commencent à venir aux affaires, sort aux États-Unis un certain livre de Hyatt Beecher Stowe, La place de l'oncle Tom, qui va véritablement changer la donne dans la lutte contre l'esclavage aux États-Unis. C'est un livre qui fait un tabac absolument hallucinant. Et d'ailleurs, Hyatt est invité à Genève, chez les Naville et dans d'autres bonnes sociétés. Et vous devinez bien que Dunant, lorsqu'il écrit son souvenir de ce Ferrido, il a aussi envie d'écrire le livre avec la L majuscule du futur humanitaire. Donc l'idée qu'un livre peut changer la face du monde, c'est certainement un élément de leur démarche. L'autre élément qui, pour moi, est véritablement décisif par rapport à un des fondements qui va donner le succès, la durabilité de la Croix-Rouge, c'est que la mission évangélique du chrétien, elle s'adresse à l'humanité entière. C'est pas les blancs, c'est pas les riches, c'est chaque être humain doit être amené au Christ, doit être converti. Il y a une sorte d'égalité dans la foi qui est pour moi assez prémonitoire de l'égalité devant la souffrance et devant les secours. On a une vision particulièrement large de l'être humain. Qui n'empêche pas du nom de fricoter en Algérie et moigné de fricoter au Congo, on est bien d'accord. Mais l'œuvre qu'ils vont bâtir, ils veulent la destiner à l'humanité entière. C'est une des clés du succès de la future Croix-Rouge. Un des autres éléments de leur engagement qui me semble assez intéressant, c'est que le fidèle, surtout dans le mouvement du réveil, mais aussi dans l'Église protestante, il s'adresse directement à Dieu ou à Jésus-Christ, peu importe. Mais il ne va pas demander à un prêtre une intervention, il ne va pas demander à un évêque une introduction ou une lettre au pape, etc. Il s'adresse directement à Dieu. Et ça veut dire que le fidèle qui est convaincu de sa mission, eh bien, il ne va pas s'adresser à un aide de camp ou à un ministre. Il va s'adresser directement au roi, à l'empereur, à la grande duchesse. Il s'adresse tout de suite, tout en haut. Et il y a une sorte d'admiration qui aujourd'hui peut nous étonner devant toutes ces têtes couronnées qui en fait font le destin de l'Europe. Mais on s'adresse directement tout en haut. Et là, par exemple, la campagne de Dunant depuis Berlin, quand il revient là, du congrès de statistiques, où il va voir les têtes couronnées, et il frappe, et puis il est accepté, et il plaît. Et il n'y a aucune gêne, et je pense qu'il y a un lien entre un élément de la foi et un élément de du missionnaire, du prophète, qui va s'adresser à tout le monde, mais aussi en premier aux puissants. Et le dernier élément, je finirai par là, c'est le fait que ces cinq fondateurs sont des héritiers de persécuté. Et pour moi, ça peut être un élément déclencheur. Dunant, Moigné, Monnoir appartiennent tous à des familles du refuge huguenot du 17e, mais plus du 18e siècle. Et par exemple, pour Moigné, l'ancêtre qui vient s'établir à Genève de façon définitive, c'est vers 1750-51. Et quand on voit aujourd'hui à quel point dans la mémoire du peuple juif, l'Holocauste, qui est maintenant vieux de 75 ans, est encore présent, omniprésent et régulièrement réactivé, 75 ans après, trois générations, eh bien, moi je ne m'étonne pas du tout que nos Genevois de 1850 vivent les persécutions qu'ont subies leurs grands-parents ou arrière-grands-parents de façon parfaitement intense. On a le culte du réfugié qui a échappé, mais dont beaucoup de membres chers de sa famille ont été ou bien convertis de force, ou bien tués, ou envoyés aux galères, etc. On a une perception de la souffrance. Pour Dufour, c'est un tout petit peu différent, mais nous l'avons vu, il est né à Constance, ses parents ont fait partie des révoltés, si j'ose dire, de 1781. Et donc, Dufour, lui, il appartient au statut de réfugié politique. Et ça, il l'a vécu. Et ça ne peut pas être absent de sa sensibilité de savoir ce que c'est que d'être envoyé loin de sa patrie pour des idées politiques, pour des raisons tout à fait honorables. Quant à Appia, je n'ai pas besoin d'insister, il est descendant des Vaudois du Piémont. Or, les Vaudois du Piémont, quand on regarde leur histoire, c'est une histoire de persécution depuis le XVIe siècle, mais surtout depuis Louis XIV. C'est simplement épouvantable ce que les Vaudois du Piémont ont subi. Ils n'accéderont à la citoyenneté qu'en 1847. Le roi du Piémont, Charles Albert, leur donne à ce moment-là l'égalité, tout simplement parce qu'on est en pleine fermentation de l'Europe, ce sera la grande révolution de 48, et le roi Charles Albert ne peut pas s'offrir le luxe d'avoir des sous-hommes qui savent très bien se battre dans son dos. Et donc, Louis Appien, au fait, il ne devient un homme à part entière depuis 1847. Avant, c'est un sous-homme. Sauf qu'il est bourgeois de Francfort, et que là, il a un statut beaucoup plus honorable, si j'ose le dire. Mais dans la famille Appia, la persécution, c'est quelque chose qu'on vit complètement, fondamentalement. Donc, je terminerai par là. On voit qu'il y a beaucoup d'éléments qui permettent de comprendre que cette équipe avait des principes de comportement et d'idéaux très forts, très communs. Qu'ils sont tous dans une dynamique, ils ont tous envie de faire quelque chose, de marquer leur temps, d'être des témoins agissants, et il se trouve que l'un d'entre eux, le 25 juin 1859, par hasard, débarque dans une église du nord de l'Italie, à Castiglione. Il voit un spectacle simplement épouvantable, dont on parlait très peu, c'est-à-dire des militaires blessés à la suite d'une bataille. Il s'engage dans ce combat-là. Ses quatre amis vont abonder dans son sens et ils vont... on avait un matériau absolument prêt, il suffisait d'une étincelle, et cette étincelle, c'est l'une en qui la vit et qui l'applique, et à ce moment-là, le mouvement va pouvoir démarrer. Il y a certainement d'autres raisons qui expliquent pourquoi ces Genèves qui a eu l'honneur d'être le lieu de fondation par les Genevois, mais il me semble clair qu'on a quelques éléments qui sont assez utiles. Je vous remercie. Alors maintenant, nous allons avoir notre grand éclairagiste en chef qui va procéder à l'inauguration du buste Louis Appia, puisque la famille m'a fait comprendre que vraiment on avait flanqué Louis Appia dans un coin impossible. Je vais demander à Stéphane s'il peut allumer le projecteur.
Volontiers, mais il faudra d'abord que tout le monde éteigne ses yeux.
Mais tu peux monter sur cette table. C'est le hasard qui nous a montré qu'il y avait deux niches dont on ne savait que faire, et puis finalement on s'est dit on avait deux bûches des fondateurs, alors on les a mis là. Certains diront qu'on les nous a planqués là-bas, mais au moins ils y sont. Alors, la famille Appia m'a fait comprendre, et la famille Dunant, je crois aussi, que la mise en valeur de ces deux bûches n'était pas absolument fantastique, mais enfin, voilà. Alors, si vous voulez vous lever pour venir regarder ici, pour qu'au moins on ait eu une ouverture en bonne et due forme, et je vois que la famille Appia va tout de suite contrôler mes dires. Voilà, et puis ensuite, eh bien, je vous propose de descendre sur la terrasse où Pierre-Lise et Jean-Claude et Elisabeth nous ont préparé une collation. Le plus simple, c'est de passer peut-être par la porte d'entrée.